Léa Salamé, votre invitée ce matin, est une chanteuse et reine de la nuit. Elle publie « Gueule de nuit » aux éditions Flammarion.
Bonjour Régine.
Bonjour Léa.
On est très heureux de vous avoir ce matin. Vous avez rencontré dans vos mille vies beaucoup d'hommes et de femmes qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle. De Françoise Sagan à Serge Gainsbourg, en passant par Andy Warhol, Françoise d'Orléac ou Michael Jackson, vous avez été leur amie, leur confidente, et aujourd'hui vous leur consacrez ce livre. Vous les avez croisés dans votre carrière de chanteuse et surtout dans vos boîtes de nuit. Est-ce que Bachung avait raison quand il chantait « La nuit, je mens » Est-ce que les gens mentent plus la nuit ?
Ah mais ils font que ça. Ils disent qu'ils sont pas mariés, ils sont mariés. Ils ont 10 enfants, ils ont pas d'enfants. Bien sûr qu'ils mentent. Il faut simplement comprendre le langage de la nuit.
C'est quoi le langage de la nuit ?
Vous savez, les gens qui aiment la nuit, c'est des gens qui ont tout ce qu'il faut. Une femme ravissante, des enfants, un bon lit confortable, mais ils préfèrent faire la fête. Et parler avec des gens qu'ils ne connaissent pas, raconter des conneries. Et moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas.
Pas une goutte d'alcool ?
Pas une goutte d'alcool de ma vie.
De votre vie ?
Non.
Mais comment c'est possible ?
Parce que j'entendais tellement qu'il n'en restait plus pour moi. Non, je ris.
Alors vous nous parlez dans ce livre-là, vous nous parlez des gens que vous avez rencontrés, que vous avez aimés. Et notamment, il y a celui qui vous a écrit parmi vos plus belles chansons, Les Petits Papiers, La Grande Zoa ou Les Bleus. Serge Gainsbourg qui disait de vous, Régine est un club privé à elle seule où n'entre pas qui veut. Gainsbourg, dont vous racontez dans ce livre, sa bascule dans l'alcool, je vous cite, du jour au lendemain, j'ai vu vriller cet homme exceptionnel, cet ami incomparable et tombé subitement dans une folie grandiose. Grandiose certes, mais une véritable folie qui le rendait pénible, difficile à vivre.
Vous savez, on avait les mêmes origines, les mêmes douleurs, les mêmes émotions. Et fin de nuit, on se mettait au coin du bar et on se racontait tout. Il était très sensible, terriblement sensible. Il pleurait facilement. On est allé à Venise. On est arrivé, il était 7 heures, il avait plu. Il y avait, vous savez, après la pluie, il y a le soleil qui s'infiltre, c'est tellement beau. Et il y avait la synagogue qui était là, il y avait une fontaine au milieu. On s'est mis à pleurer tous les deux. Et on a voulu rentrer à la synagogue. Alors vous savez, de voir un rabbin qui vous ouvre, ça avait l'air comme d'un truc de guignol, vous savez. Et il dit, c'est fermé en italien, il parlait qu'en italien. Et il nous a foutu à la porte, on n'était pas contents, et on pleurait vraiment comme des enfants.
Vous avez été foutu dehors de la synagogue de Venise. Ce qui est assez marquant, c'est que vous vous faites une idée des gens dès la première seconde où vous les voyez. Vous racontez ça quand vous rencontrez Françoise Sagan ou Barbara. Dès les premières minutes, dès les premiers regards, vous savez qu'il va se passer quelque chose avec ces gens-là.
Écoutez, c'était des femmes exceptionnelles, d'abord. Et j'ai toujours eu un instinct fou sur les gens depuis que je suis petite. Je sais exactement à qui il faut parler ou à qui il ne faut pas parler.
Alors parlons des gens qui vous plaisent.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la jeune Françoise Sagan au début des années 60? Elle venait d'écrire Bonjour Tristesse qui rentre dans votre boîte de nuit.
Alors moi, j'étais barmaid au Whisky à Gogo. Un jour, j'ai un ami qui m'appelle. Il me dit, je t'amène Françoise Sagan. Moi, je venais de dire Bonjour Tristesse. Et j'étais fasciné par le livre, bien sûr. Et je vois arriver un personnage tout frêle, avec un pantalon à carreaux, un pull beige, des mocassins ravissants. C'est tout ce que je voulais être, en fait. Je lui dis, Françoise, je suis tellement contente de vous connaître, je viens de lire le livre, c'est merveilleux. Et elle me dit, oh, on s'en fout, Minou. Ma belle Minou, j'étais 2 fois grande comme elle. Et elle embrassait, vous savez, comme les gens qui n'osent pas vraiment embrasser, dans le vide. Ah, je lui dis, écoute, si tu veux m'embrasser, il faut m'embrasser sur les joues. Parce que le reste, je comprends pas.
Et ça a été une immense amitié.
Plus qu'une énorme amitié. C'était quelqu'un de ma famille, c'était quelqu'un de fabuleusement généreux. Vous savez, les hommes avaient une attraction pour elle extraordinaire. Elle me disait, tu vois le type qui est là? Eh ben, tu vas voir, il va tomber amoureux de moi.
Et c'était vrai.
Et c'était vrai.
Johnny a une place de choix dans ce livre. Vous le rencontrez à ses tout débuts, vous le trouvez beau, magnétique, il sera votre ami. Et dans ce livre, vous rompez une promesse que vous lui avez faite au début des années 60. Johnny a toujours dit « Je n'ai jamais rencontré Elvis Presley, jamais, et c'est le plus grand regret de ma vie ». Et sauf qu'il ment. Ils se sont rencontrés dans les années 60, dans une boîte des nuits parisienne, la Calvados.
Ils ment pas volontairement. Quand je l'ai vu à la Calvados, j'ai dit, Johnny, regarde là-bas, il y a...
Il y a Elvis Presley.
viens avec moi, je vais te le présenter. Il m'a dit non, je veux le connaître autrement. J'ai dit, mais écoute, il n'y a pas 50 façons de le connaître. Alors tu lui dis bonjour. Et à ce moment-là, Elvis se lève pour sortir et je lui présente Johnny, auquel il fait absolument aucune attention. Et je pense que Johnny, j'en ai jamais parlé avec lui parce qu'il a plus reparlé de ça.
Non, mais il vous a dit à ce moment-là, il sort de la boîte de nuit et il vous dit, tu sais Régine, il ne faudrait jamais, mais jamais rencontrer ses idoles. Parce qu'en fait, il était pétrifié et que la rencontre s'est mal passée.
C'est pas ça, il avait peur qu'on l'accuse d'imiter Elvis. C'est tout.
Et donc, il vous a fait promettre de ne jamais le répéter qu'il l'avait rencontré.
Il m'a dit, tu dis jamais à personne. Alors il m'a dit, tu me le jures. Alors j'ai dit, oui, je te le jure.
Chose plus étonnante qu'on découvre dans le livre, que moi j'ai découvert dans le livre, vous, celle que Sagan appelait la reine noire de nos nuits blanches, vous, Régine, vous avez noué une amitié étonnante avec une femme. Alors c'est vrai qu'on a du mal à vous imaginer ensemble, mais en fait vous êtes devenus très amis. Vous déjeuniez une fois par semaine ensemble. C'est Simone Veil.
Simone Veil, c'est quelqu'un, on ne peut pas la décrire comme ça simplement. On parlait sérieusement, d'abord elle m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai fait cette association qui s'appelle SOS Drogue Internationale en 84 et personne n'osait parler de la drogue ni rien du tout. Et moi j'étais quelqu'un qui était très réfractaire et j'étais brutal avec ces gens qui voulaient se foutre en l'air et qui, moi qui c'était une survivante. Et j'ai pris ça pas comme une distraction, comme un vrai travail.
C'est effectivement dans le cadre de cette association SOS Drogue Internationale que vous avez montée, que vous demandez à rencontrer Simone Veil, que vous ne connaissez pas, pour qu'elle vous aide à trouver de l'argent. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Simone Veil, quand vous la rencontrez ?
Simone m'a dit, Régine, est-ce que tu sais ce que les notables pensent de toi ? J'ai dit non, je m'en fous. Elle m'a dit non, tu t'en fous pas du tout. Il faut que tu aies les notables avec toi. Je dis, bon, ben, je me plierai à ce qu'il faut. Elle dit, alors, je vais faire un courrier.
Au notable. Pour qu'il vous soutienne.
Et elle m'a fait lire. C'était une horreur. J'étais une tenancière. J'étais une femme qui faisait rencontrer des femmes à des hommes. Oh là là, j'étais affolée. Je suis l'inverse de tout ça. Alors, j'ai été les voir chacun. J'étais parlé avec eux.
Et ils vous ont soutenu. Mais qu'est-ce que vous trouviez à vous dire dans les déjeuners ? Vous êtes tellement différente. Mis à part vos souvenirs communs de petites filles juives qui ont échappé aux joues nazies, qu'est-ce que vous aviez à voir, vous, Régine, avec Simone Veil ?
Justement, on ne parlait pas beaucoup de ça. On parlait de plein de choses. De ce qu'elle éprouvait, de ce que j'éprouvais, ce que j'avais vécu. On parlait beaucoup de famille. Et elle avait un côté très enfantin. On allait au marché à Saint-Tropez. Et alors, elle achetait des petites bricoles, des petits machins. Moi, je lui offrais des petites bagues avec des faux. Elle n'aimait que ça. Et je vais vous dire, elle était tellement aimée que tout le monde lâchait sa caisse. Il lui faisait des applaudissements, bien sûr. Et elle joue un grand rôle dans ma vie. Très grand rôle. Elle le joue toujours.
Vous avez dit dans une interview récemment, la terre entière se fait chier. Moi, je suis une enthousiaste. La retraite, c'est la mort. Je sais même pas comment ça s'écrit.
Exactement. Je ne serai jamais en retraite. J'ai déjà des projets énormes.
À 89 ans.
Mais c'est très jeune, 89 ans. Quand on a la chance de ne pas être malade, de ne pas avoir un mari chiant sur le dos, quand on est libre, moi je suis une libertaire.
Alors la vie est belle.
La vie est belle. Et j'apprends à danser à mon arrière-petit-fils.
Et vous écrivez un livre.
Et surtout, je me dis que j'aurai une continuité.
Avec votre
Ça
petit.
M'inquiétait beaucoup.
Merci beaucoup Régine. Le livre s'appelle Gueule de nuit, magnifique galerie de portraits des gens que vous avez aimés, des gens que vous avez côtoyés. C'est chez Flammarion. Merci à vous.
Merci Léa.